Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, en route sur les chemins de la philosophie, on commence par Marx, mais l'autre Marx.
Sell this weenie with Rossini, and this Verdi goes with Verdi. Yes, you'll make a lot of friends if you sing a sweet cadenza. Sing while you sell. Da, 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 sing while you sell.
Bonjour Isabelle Garot.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Vous êtes professeure de philosophie en classe préparatoire au lycée Chaptal à Paris. Vous collaborez à la grande édition des œuvres de Marx et d'Engels en français, ainsi qu'à la revue Contre-temps. Et c'est vous qui allez être notre guide dans ce monument qu'est le Capital. Alors, France Culture proposait la semaine dernière le top 10 des œuvres qui nous tombent des mains, qu'on n'a jamais réussi à finir de lire. Il y avait évidemment La Recherche du Temps Perdu, L'Homme sans qualité de Musil. Est-ce que le Capital en fait partie?
Sans doute. Pour
rassurer tout le
lecteurs.
Monde en disant oui, s'il vous plaît.
Certainement. Et non seulement c'est un livre qu'il est difficile de finir, mais qui en lui-même n'est pas achevé. Donc raison de plus aussi pour que la lecture se prolonge sans fin dans la lecture des brouillons, des manuscrits préparatoires de ce texte.
Et d'où l'utilité d'une série d'émissions sur ce thème, parce que s'il est difficile à lire, il est plus facile d'en parler.
Absolument.
His jacket smelt is made of felt, but it feels more like a man. If the felt should itch, you could make a switch and wear it for a hat.
This is an American Navy girl. Every night, two sailors wait to convoy her home.
The steppin' gay is recherché and fits both slim and stout.
Quand Groucho Marx chante qu'il vaut mieux chanter en travaillant, surtout quand on travaille dans la vente, hein, en 1941, Karl Marx, lui, préfère insister sur le caractère pénible et déshumanisant du travail, Isabelle Garot.
Oui, dans le capitalisme, effectivement, et on va y revenir dans un instant, le travail est aliénant, comme il le dit, et il est occasion d'exploitation, destruction du temps de vie. Mais il y a toujours aussi, dans le travail, un côté positif qui est la capacité de l'individu à développer des capacités nouvelles. Donc le travail, dans le mode de production capitaliste, est une vaste contradiction.
Alors, pour commencer à arpenter avec vous ce texte monumental qu'est le Capital, le livre 1 en tout cas, rappelons quelques dates. Karl Marx naît en 1818, il meurt en 1883. En 1867 paraît le premier livre du Capital. C'est le résultat de 15 ans de travail et au dire de son auteur, alors âgé de 49 ans, c'est certainement le plus redoutable missile qui ait été lancé à la tête des bourgeois. Le but, eh bien, définir ce nouveau mode de production qu'est le capitalisme, qui prend la forme d'une immense accumulation de marchandises. Le moyen, parvenir au terme d'une analyse économique, philosophique et politique très précise, à identifier l'origine du profit. Ce qu'aucun intellectuel ou scientifique avant lui, que ce soit Locke, Smith ou Ricardo, dont il se revendique, n'était parvenu à faire avant lui. Ce profit, Marx le nomme la plus-value, ce qui désigne l'écart entre la force de travail, fournie par l'ouvrier, et le salaire qui lui est donné en échange, travailler toujours plus, mais ne jamais être rémunéré à hauteur de son investissement. À qui profite ce profit? Et est-il possible de l'enrayer? Voici les questions auxquelles Marx va essayer de vous répondre aujourd'hui et cette semaine à travers vous aujourd'hui, Isabelle Garot. D'abord, première question, le capital, que désigne le terme de capital?
Énorme question, puisque le capital, traditionnellement, et je crois encore aujourd'hui, on a tendance à l'identifier à une quantité d'argent déposée sur un compte ou utilisée, alors que pour Marx, ça n'est pas cela, puisque d'ailleurs dans le Capital et dans le livre 1, il y a un chapitre, une section consacrée à la transformation de l'argent en capital. Donc, les deux sont des choses différentes. Et pour lui, le capital, ça n'est pas une chose. Ça n'est pas un flux de richesse non plus, c'est un ensemble de rapports sociaux, c'est un mode de production, et c'est la façon dont ce mode de production s'exprime, se cristallise dans cette richesse, et dans cette richesse sous forme abstraite, dit-il, sous forme monétaire, sous la forme d'argent. Mais ce capital, c'est donc tout le processus que vont décrire ces trois livres qu'il s'emploie à rédiger, et qui est donc un ensemble de rapports sociaux et un ensemble de formes prises par la valeur, et là aussi, le livre 1 du Capital commence par décliner ces différentes formes de la valeur.
Ce qui signifie que pour réfléchir à ce qu'est même l'argent, on ne peut pas réfléchir à ce qu'est l'argent et le rapport que l'homme entretient avec cet argent sans prendre en compte ce que Marx appelle les rapports sociaux. Toute forme de réalité est constituée par des rapports sociaux.
Tout à fait. Donc avant le capitalisme, il existe de l'argent et des marchandises. Et cet argent et ces marchandises ont un statut différent dans des modes de production qui sont différents, dont la logique n'est pas celle du capitalisme. Et à un moment, Marx va définir le capitalisme comme cette logique folle, finalement, qui consiste à valoriser la valeur sans fin et sans préoccupation pour les conditions de travail, ni vraiment pour les besoins humains d'ailleurs, ni pour la satisfaction des besoins humains. On est passé à une autre façon de concevoir la société humaine.
Quand date-t-il le début du capitalisme ?
Alors, c'est une question qui va être très discutée. Le début du capitalisme, c'est notamment en Angleterre, au moment où les rapports sociaux vont être transformés au 19e siècle, dans le secteur agricole en réalité, et pas d'abord du côté de l'industrie. Et donc c'est là qu'on voit apparaître les premiers rapports sociaux de type capitaliste qui vont ensuite donner naissance à cette révolution industrielle dont l'Angleterre est typique, mais qui va se propager dans le reste du monde, à commencer par l'Europe, mais aussi dans le reste du monde. Donc l'origine du capitalisme, c'est le 19e siècle, et ça n'est pas, même s'il y a un essor commercial au 15e siècle, ça n'est pas là qu'on trouve le capitalisme.
Donc Marx en est absolument contemporain, il se fait observateur de son siècle au moment où il écrit le Capital.
Absolument.
Parce que cette notion, cette analyse d'une production de valeur au nom de la valeur, elle est complètement dépendante de ces rapports sociaux que vous décriviez, de ce mode de production du capitaliste auquel Marx assiste. Mais ce n'est pas le premier à penser cette manière, ce rapport à l'argent qui consiste à vouloir gagner de l'argent pour l'argent. Si on remonte dans l'histoire intellectuelle ou même philosophique jusqu'à Aristote, on pense à ce terme un peu barbare qu'est la crématistique, qui désigne l'accumulation de richesses pour les richesses. Alors quelle différence entre...
Tout à fait.
La crématistique et le capitalisme.
Alors c'est une excellente question parce que je crois que c'est comme cela qu'on peut définir justement le capitalisme, par cette différence entre une forme d'accumulation et de stockage de la richesse sous la forme abstraite, donc sous la forme monétaire, et puis la remise permanente dans le circuit du capital qui va grossir et s'accumuler par cette remise en circuit et par le retour du capital dans la sphère de la production. Donc là on a une logique qui est tout à fait différente de celle de l'avare, qui stocke dans sa cassette son or. On a là un dynamisme, et c'est ce qui fait du capital cette gigantesque accumulation de marchandises. Vous avez cité la formule qui est dans le manifeste, et qui vraiment spécifie le capitalisme.
Donc cette notion de réinvestissement.
Voilà, réinvestissement et d'accumulation sans fin, de croissance économique aussi, et d'accumulation sans fin, avec comme seule perspective, pour ceux qui sont les acteurs du capitalisme, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs, cette accumulation de capital.
On va entendre un extrait du Capital dans sa traduction française. Un mot avant qu'on entende l'extrait, justement sur la traduction française d'Isabelle Garreau, parce que Marx l'a suivi de près. Il sait exactement ce qu'il se trouve dans cette traduction française. Et certains de ses contemporains ont même jugé qu'en fait le texte était complètement dénaturé par la traduction. Enfin, on trouve toujours des détracteurs des traductions pour avancer ce genre de thèse. Comment vous situez-vous par rapport à cette analyse ?
Alors, l'édition du Capital fait partie du Capital, dans la mesure
française,
où Marx... toute l'édition, même l'édition en allemand, puisque Marx est mort avant d'avoir pu terminer le livre et que l'édition a été mise au point en grande partie par Friedrich Engels. Donc cette édition, évidemment, est sujette à quantité de débats, puisque l'intervention d'Engels est importante dans le manuscrit. Le livre 1 du Capital donc, a été effectivement traduit en français, diffusé en France à partir de 1872 jusqu'en 1875. Et le traducteur, Joseph Roy, va soumettre son manuscrit à Marx. Donc là, on a un document, Marx dit lui-même, qui est un document qui présente des caractères un peu différents et qui est intéressant aussi pour cela, avec une insistance sur le colonialisme, par exemple, tout à fait frappante. Et en même temps, des simplifications. Il faut aller vite. Marx veut diffuser rapidement ce texte en France. Il ne fait pas tout à fait confiance à la culture philosophique allemande requise pour lire justement certains passages du Capital. Et du coup, certaines formulations sont simplifiées ou certaines phrases sont même supprimées pour rendre la lecture plus facile. Et du coup, on a une édition à part entière, mais qui présente à la fois des qualités et des défauts, et qui explique d'ailleurs certainement qu'en France, on se focalise davantage sur le livre 1 à cause de cette histoire que sur les livres 2 et 3 qui sont largement délaissés, malheureusement.
Le livre 1, en tout cas, est très important en lui-même. On y trouve beaucoup, beaucoup de définitions et notamment donc cette importance de la plus-value, comment se fabrique la plus-value. Écoutons un extrait de ce texte, vous verrez que finalement il est tout à fait audible et même lisible. Certains termes techniques ont déjà été un peu définis par vous, Isabelle Garraud, puis on va en définir davantage. C'est le comédien Georges Claisse qui interprète ce texte, écrit donc il y a 150 ans.
Le produit est la propriété du capitaliste, et non celle du producteur immédiat, du travailleur. Le capitaliste paye, par exemple, la valeur journalière de la force de travail. Son usage lui appartient donc pour la journée, comme celui de toute autre marchandise qu'il aurait louée pour un jour, un cheval, par exemple. L'usage de la marchandise appartient à son acheteur, et le possesseur de la force de travail, en fournissant son travail, ne fournit que la valeur d'usage qu'il a vendue. En achetant la force de travail, le capitaliste a incorporé le travail proprement dit comme un ferment vivant au constituant mort du produit qui lui appartenait également. Le processus de travail est un processus qui met en jeu des choses que le capitaliste a achetées, des choses qui lui appartiennent. Le produit de ce processus lui appartient donc autant que le produit de la fermentation dans son cellier.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h12. Bienvenue pour le premier temps de cette série sur le capital de Karl Marx. Mais oui, 4 émissions sur, et rien que sur le capital de Karl Marx. Au terme de ces 4 émissions, peut-être ce livre vous sera-t-il plus clair. En tout cas, vous en aurez une idée très précise, grâce notamment à vous, Isabelle Garraud, qui est avec nous en studio pour en parler aujourd'hui. Le texte que l'on vient d'entendre était issu du premier livre du Capital, section 3, chapitre 5, hein, c'est très précis, et à chaque section et chaque chapitre correspondent à une analyse d'une notion, d'un concept. Ici donc, la fabrique de la plus-value. Ce qu'on retient de ce texte, qui est à la fois très court et un temps très précis et vraiment chargé en nouvelle signification que Marx donne à ces termes, c'est un, la comparaison de l'homme à un animal, un cheval par exemple, et deux, encore plus loin, une réduction de l'homme à une dimension quasiment organique qui va être comparée à quelque chose qui est sur le point de mourir. On a une déshumanisation totale de l'homme.
Oui, alors on retrouve là vraiment ces contradictions dont je parlais tout à l'heure. On a un texte qui est vraiment le cœur de l'analyse du capitalisme. C'est le secret de la production capitaliste que Marx est très fier d'ailleurs d'avoir découvert et qu'il va nommer plus-value ou sur-valeur, cela dépend de la traduction qu'on donne au terme allemand. Alors dans ce texte, effectivement, on a cette logique du mort qui saisit le vif, du travail vivant qui s'accumule sous forme de travail mort, et c'est là une des contradictions du capitalisme qui fait que l'activité humaine vivante est destinée à un moment donné à se figer, à se transformer en produit, à se transformer en machine, à se transformer en une série de choses. Et dans le capitalisme, Marx explique que ces choses se dressent contre le producteur, se retournent contre lui. Et c'est d'ailleurs comme cela que les ouvriers anglais des premières grandes usines l'ont vécu, avec ce mouvement de destruction des machines qui est celui du ludisme. On a ce sentiment de concurrence entre le travailleur et la machine qui est lié à cette transformation du travail vivant en travail mort. Mais derrière cette logique-là, il y a une logique plus profonde encore qui est donc cette logique de la plus-value que Marx essaye d'expliquer là dans ce texte et dans de nombreux autres, qui est pour lui liée à l'achat de la force de travail. Et donc la comparaison avec l'animal ici, en réalité, est une différence fondamentale. Quand on achète un cheval, on le fait travailler, certes, mais on ne le salarie pas. On ne paye pas de salaire à son cheval, on lui donne du foin, mais c'est tout à fait différent. Le salaire, c'est la condition même de la plus-value capitaliste. C'est grâce à ce système qui est à la fois un système de propriété, on entend le mot dans le texte, c'est un rapport social, là on le sent très bien, et un rapport de classe, un rapport d'exploitation qui met face à face deux classes. Cette réalité sociale complexe va donner naissance justement à ce type de production très spécifique du capitalisme, qui est une production qui crée toujours plus de richesses sur la base des éléments de production qui sont là préalablement. Alors, Je ne sais pas si vous souhaitez que j'explique un petit peu plus clairement.
Ah bah si, au contraire, vous êtes là pour ça.
Alors, pour essayer d'être pédagogue, parce que le processus est complexe, disons que Marx va présenter ce qu'il appelle le schéma, alors ça fait un peu peur, le schéma de circulation simple, mais l'idée est très simple, c'est que on a d'habitude, dans l'échange des marchandises, l'argent qui sert d'intermédiaire, on vend une marchandise pour pouvoir en acheter une autre, et donc on a M, la marchandise, A, l'argent, et une deuxième marchandise, M2, qui est la suite de ce processus. Dans le capitalisme, on a tout à fait autre chose. On commence par l'argent. Mmh. On a de l'argent qui va permettre d'acheter des moyens de production et de salariés des individus. On passe par la production de marchandises, donc AM. Et puis, on retrouve une quantité d'argent augmentée d'un plus, A'. Et toute la question, mais c'est une véritable énigme de l'économie politique, toute la question, c'est de savoir d'où vient ce plus. Alors, traditionnellement, pour les économistes, ce plus, il provient de la circulation. C'est-à-dire que c'est une espèce de fraude qui consiste à vendre un peu plus cher ce qu'on a acheté un peu moins cher et à faire une plus-value.
Oui, on se demande pourquoi c'est une telle énigme en fait. Il suffit de vendre plus cher, de vendre une marchandise plus chère qu'elle ne nous a coûté.
Tout à fait. Enrichir. Alors en même temps, il y a une objection très simple et très immédiate à cela, c'est que si tout le monde fait cela, ce plus s'annule. Je paye plus cher et j'achète plus cher en même temps que je vends plus cher. Donc tout le monde opérant cette petite augmentation, personne n'en bénéficie puisqu'à l'arrivée on a une somme constante. Donc ça n'est pas ça l'explication. Et l'idée de Marx, c'est qu'il faut aller voir du côté de la production, de la sphère de la production, le laboratoire de la production, dit-il, le secret de cette plus-value. Et le secret, donc, il tient au fait que quand le capitaliste achète la force de travail, il achète une marchandise tout à fait spéciale.
Alors quand vous dites force de travail, il faut définir ce que ça signifie. C'est le salarié en réalité.
Alors oui, vous avez raison. C'est le salarié. C'est la durée de travail qui est inscrite sur le contrat de travail et qui va être achetée par l'employeur. Il achète non pas le travail réalisé, mais il achète une durée légale, une durée en tout
8 cas. 8 heures par jour, 35 heures par semaine, etc.
Qui est, dans le meilleur des cas. Qui correspond à cette force de travail. Cette force de travail, si Marx prend soin de la distinguer du travail, c'est qu'il faut la consommer. Le terme peut paraître étrange, mais comme dans toute autre marchandise, on a un phénomène de consommation, c'est-à-dire d'utilisation de cette force de travail. Ici, la consommation, il va la qualifier de productive, et c'est cela la caractéristique éminente du travail humain, c'est qu'en consommant ce travail, c'est-à-dire en faisant travailler des salariés, on produit plus de richesses que le travail n'en coûte. Alors, c'est là qu'il faut expliquer un petit peu la chose, c'est que quand on achète un bien, on l'achète toujours, pour Marx, à sa valeur. Quand on achète la force de travail, on l'achète exactement à sa valeur. Et la valeur de la force de travail, c'est ce qui est nécessaire pour sa reconstitution. Il faut que je paye mon salarié un minimum pour qu'il puisse revenir au travail le lendemain.
Et pour qu'il minimum, puisse se nourrir, dormir, se reposer pour pouvoir revenir.
Et donc ça, c'est le prix de la force de travail. Mais là où la magie intervient, si on peut dire, c'est qu'une fois qu'on met ce travailleur au travail, il va créer un certain nombre de richesses. Mettons, pendant la matinée de sa journée de travail, il va créer la quantité de richesse qui correspond exactement, disons, par hypothèse, au salaire qu'il a perçu. Et il continue à travailler, puisque c'est stipulé dans le contrat de travail. Et donc les heures supplémentaires sont du surtravail, nous dit Marx, qui vont au-delà du remboursement, entre guillemets, si on suppose que le salaire est une avance, qui vont au-delà du remboursement de cette avance, et qui vont créer une richesse supplémentaire qui est la propriété du capitaliste.
Donc, si je vous comprends bien, c'est la durée de la journée de travail qui est supérieure au salaire restitué aux salariés.
Oui, tout à fait.
Donc il n'est pas payé pour le travail qu'il fournit.
Il n'est pas payé pour la totalité du travail qu'il fournit.
Mais comment quantifier ça? Comment quantifier la quantité, justement, même la nature du travail fourni par le salarié, et évaluer, estimer le salaire correspondant à ce qu'il fournit?
Tout à fait. Là, il faut rentrer vraiment très profondément dans cette mesure de la valeur. Et la forme salaire cache cela. Le salaire perçu semble être le prix du travail, justement, et non pas le prix de la force de travail pour une durée donnée. Donc il va falloir aller derrière ce système, non pas simplement d'apparence, au sens où ce serait un déguisement, mais aller derrière ces formes successives, et c'est justement le projet du capital, que d'aller essayer de comprendre ce qui est derrière la formation de la valeur capitaliste, et la manière dont ce surplus, donc cette plus-value, va être en permanence dégagé par le capitalisme, qui se l'approprie. Toute la question, c'est de savoir s'il est légitime que le capitaliste s'approprie le travail d'autrui. Légal, oui, en vertu du contrat de travail, mais légitime, on pourrait dire absolument pas, puisque c'est ce travail qui a été produit par des travailleurs. Et c'est ce qui est dit dans le texte qui vient d'être lu. C'est que cette propriété, finalement, c'est la propriété du capitaliste, mais en vertu d'un rapport social, là aussi, un rapport de propriété qui est parfaitement contestable et qui est créateur d'injustice sociale, hein, qui fait que les capitalistes ne vivent et ne s'approprient que le travail vivant qu'il transforme en capital. Donc ce capital est à 100% du travail fait par autrui, produit par autrui.
C'est l'occasion pour Marx de revenir sur le contrat de travail, hein, qui présuppose une égalité, même la liberté des parties contractantes. On stipule qu'on obtient un salaire en échange d'un travail fourni. En réalité, dit-il, c'est plutôt un contrat d'adhésion qui est vraiment inégalitaire parce qu'il engendre ce qu'il appelle une exploitation. C'est-à-dire qu'il y a forcément un rapport de hiérarchie.
Il y a forcément un rapport de hiérarchie.
C'est pas parce que c'est légal que c'est égal, déjà, et ni que c'est légitime. Ça, c'est assez fou de dire que, voilà, que le contrat de travail est légal juridiquement, mais il est illégitime, parce qu'il entraîne l'exploitation d'une partie contractante.
Oui, bien sûr. Alors Marx sera en désaccord avec Proudhon sur l'idée que la propriété, c'est le vol, parce que pour lui, justement, les rapports de propriété sont toujours historiques, et en l'occurrence, le contrat de travail est, à un moment donné, à un moment historique donné, la forme de propriété centrale pour le capitalisme. Ce qui n'empêche pas donc qu'on puisse contester et que le mouvement ouvrier naissant auquel il participe comme militant, comme intellectuel, mais aussi comme militant, va se battre contre cette situation profondément inégalitaire. Et ce qui est important, c'est que je crois qu'on peut ajouter cela, c'est que dans ce contrat de travail et dans ce système capitaliste, finalement, c'est pas simplement une quantité de richesse qui serait confisquée finalement par le capitalisme, c'est du temps. Et c'est fondamentalement du temps de vie, du temps de développement à soi, qui est là littéralement volé. Et Marx, dans un passage d'un des brouillons du Capital, emploie cette expression de vol de temps. Et là, la dimension humaine aussi apparaît dans ce texte, qu'on juge souvent être un texte économique un peu aride. Cette dimension de l'exploitation est aussi une dimension humaine.
Oui, parce qu'il y a une dimension anthropologique à l'exploitation qu'il appelle l'aliénation.
Tout à fait.
Et qui a une portée philosophique très forte qui concerne l'être humain en tant que tel, en tant qu'absolument privé de toute forme de liberté dans l'exercice de sa vie.
Oui, oui. Alors, le terme de liberté, vous avez employé avant à juste titre pour définir celui qui est un contractant. On a deux êtres libres, un employeur et un employé. Cette liberté, finalement, elle est factice. Parce que c'est la liberté de celui qui n'a plus les moyens de production et qui est obligé de s'embaucher, qui est obligé de devenir salarié pour pouvoir vivre, tout simplement. Donc c'est une liberté en trompe-l'œil. Et par ailleurs, cette volonté de liberté persiste au cœur même de l'individu et des classes sociales aussi, qui sont l'objet de cette exploitation. Et cela, pour Marx, c'est très important. Le terme de missile envoyé à la face de la bourgeoisie du texte d'introduction dit cela aussi, cette immense colère de Marx lui-même, mais cette immense colère de ceux qui sont pris dans ces rapports sociaux déshumanisants et aliénants.
Alors c'est difficile d'arriver à mesurer la portée de ces accusations quand on l'inscrit dans l'histoire même économique. Avant le mode de production capitaliste, il y avait un mode de production qui n'était pas forcément plus égalitaire, enfin, loin de là, qui était le servage, où il y avait certains individus étaient officiellement soumis à d'autres et travaillaient parfois gratuitement sans même recevoir de salaire. Dans cette perspective-là, il y a une manière de réfléchir au mode de production capitaliste qui puisse être un progrès avec le contrat, avec une forme de liberté quand même qui revient aux salariés. Et c'est ça que Marx dénonce. En fait, il dit qu'il n'y a aucun progrès, que ça n'est qu'une illusion.
Alors, oui, en un sens, il n'y a aucun progrès. En tout cas, il y a une différence avec le mode de production précédent, que Marx qualifie de féodal, c'est que là, la façon de s'accaparer les richesses par ceux qui sont les puissants apparaît directement, sous forme de journée de corvée, par exemple. On voit très directement cette emprise sur le travail d'autrui. À travers le salaire, cela est caché et déguisé. Mais en même temps, Marx ne rêve absolument pas d'un retour à l'époque antérieure. Il ne juge pas qu'elle est plus favorable. Elle peut l'être d'ailleurs à certaines occasions. Il décrit l'enfer de la production anglaise, mais il ne s'agit pas pour lui, pour autant, de préconiser un retour en arrière. Il s'agit aussi de montrer que le capitalisme est cette capacité à un moment donné à produire plus et mieux, qui présente un certain nombre de traits positifs, mais qu'il faut abattre comme ce mode de production, en tout cas, qui crée l'exploitation et une exploitation sans précédent. Donc il y a là aussi un jugement, on pourrait dire, balancé avec, du côté de l'analyse des forces productives, la reconnaissance par Marx du fait que le capitalisme est porteur d'un immense progrès des forces productives, mais que du point de vue humain, il est aussi porteur de dégâts absolument considérables. Et de dégâts, Marx est aussi curieux que ça puisse paraître pour beaucoup de gens, un des premiers écologistes. En tout cas, un des premiers à avoir l'idée que le capitalisme est en train de détruire, dit-il, la terre autant que le travailleur. ça fait partie de ses préoccupations politiques, pour le coup.
Alors avant d'écouter un autre extrait du Capital dans lequel Marx va préciser sa pensée et pourquoi ce qu'il dit ne peut s'appliquer qu'à son époque, dans une époque où la machine a remplacé le travailleur, une autre question, Isabelle Garraud, est-ce que Marx permet de penser, de faire la généalogie de ce qui arrive? En d'autres termes, peut-il expliquer ou essayer de déceler les raisons pour lesquelles ce qui arrive, la valorisation de la valeur, le mode de production capitaliste, qui n'a jamais été de vigueur avant le 19e siècle, arrive à ce moment-là?
Pourquoi il arrive au 19e siècle? Oui, il est le résultat non pas d'un projet concerté de la part des dominants, mais d'une transformation lente, progressive des rapports sociaux, d'une transformation des forces productives, d'une amélioration aussi des capacités de production, d'une division du travail qui va croissant, de formes d'accumulation et d'accumulation extrêmement violente par la colonisation, qui est le lieu de naissance du capitalisme aussi. Donc tous ces processus historiques vont à un moment donné se croiser, s'additionner et donner naissance à un mode de production capitaliste qui n'est jamais le même d'ailleurs, parce que votre question me fait penser à ça. Il a plusieurs périodes, plusieurs stades. Nous sommes dans sa période sans doute sénile et l'une des plus féroces, qui est le néolibéralisme en crise, mais c'est une phase du capitalisme qui connaît des phases successives et qui à chaque fois exige que l'analyse soit réajustée à ces conditions nouvelles.
Et précisons que pour Marx, la révolution, parce qu'il est difficile de ne pas citer ce terme, ne relève pas d'un choix individuel ou collectif, mais est impliqué nécessairement par le processus d'évolution du capitalisme.
C'est les deux. Hein. C'est pas directement le produit mécanique d'une histoire. Marx n'est absolument pas déterministe, et plus il vieillit, moins il l'est, d'un certain point de vue. Donc c'est aussi un choix à la fois individuel, collectif, et une exigence, disons, portée par cette situation historique qu'il décrit.
Le choix, en tout cas, que fait Marx, c'est celui d'écrire ce Capital, ça lui coûte beaucoup. Écoutez-le à travers la voix de Michel Bouquet, dans une lettre qu'il écrit à Engels au moment d'achever le Capital, on est en 1866. Il présente son livre comme un enfant, comme un de ses enfants, écoutez.
Pour ce maudit livre, voilà où j'en suis. Je l'ai terminé fin décembre. La seule étude consacrée à la rente foncière, c'est-à-dire l'avant-dernier chapitre, forme, dans la rédaction actuelle, tout près d'un livre. Je passais la journée au muséum et j'écrivais la nuit. Il a fallu m'assimiler la nouvelle chimie agricole allemande, spécialement les traités de Liebig et de Schönbein, qui sont, dans cet ordre d'idées, plus importants que tous les économistes réunis. Et, d'autre part, me mettre au courant de l'énorme documentation fournie par les Français depuis que je me suis, pour la dernière fois, occupé de ce point. Bien qu'achevé, mon manuscrit, gigantesque sous sa forme actuelle, ne peut être publié par personne, même par toi. Il ne peut l'être que par moi seul. J'ai commencé la copie et la rédaction définitive le 1er janvier, et le travail avançait très rapidement, parce que c'était un plaisir pour moi de bien bichonner mon enfant après avoir eu tant de mal à le mettre au monde. Mais un nouvel anthrax se mit en travers, si bien qu'au lieu d'avancer, je ne pouvais plus, en fait, que compléter par-ci par-là ce qui, d'après le plan, était achevé déjà.
Il s'agissait de bien bichonner mon enfant après avoir eu tant de mal à le mettre au monde. On retrouve la métaphore quasi organique que Marx utilisait pour parler du rapport de l'homme à son travail. Là, c'est lui à son propre livre, c'est pareil, Isabelle Garraud.
Oui, tout à fait, et ça prend toute sa force quand on sait que Marx a perdu un certain nombre d'enfants.
De ses enfants en bas âge, oui.
En bas âge, liés à ses conditions de vie extrêmement difficiles. Très bien restituées d'ailleurs dans le magnifique film de Raoul Peck, Le jeune Marx.
Qu'on peut voir en ce moment sur les écrans. Il existe tout un autre Marx dont on parle moins, qui est un Marx père, qui est un Marx beaucoup plus jeune, qui est aussi un Marx amoureux. J'aurai l'occasion d'en reparler cette semaine. On peut trouver les lettres d'amour et de combat entre Karl et Jenny Marx aux éditions à la Rivage, petite bibliothèque Payot, où on trouve vraiment ce Marx qui est plein d'empathie et d'émotion, ce qu'on ne voit pas toujours à la lecture du Capital. Il est important de le rappeler. Continuons cette lecture ensemble, Isabelle Garraud. Voici un deuxième extrait du chapitre 5 de la troisième section du premier livre du Capital, cette fois lu par Georges Clès.
Dans la manufacture et dans l'artisanat, le travailleur se sert de l'outil. Dans la fabrique, il sert la machine. Dans le premier cas, c'est de lui que procède le mouvement du moyen de travail. Dans le second, il doit suivre le mouvement du moyen de travail. Dans la manufacture, Les travailleurs sont les membres d'un mécanisme vivant. Dans la fabrique, il existe indépendamment d'eux un mécanisme mort auquel on les incorpore comme des appendices vivants. La routine affligeante d'un labeur pénible et interminable où se répète sans cesse le même processus mécanique est un travail de Sisyphe. Le poids du travail retombe sans cesse comme le rocher sur le travailleur accablé. Tout en agressant à l'extrême le système nerveux, le travail sur les machines opprime le jeu complexe des muscles et confisque toute liberté d'action du corps et de l'esprit. Même l'allègement du travail se transforme en moyen de torture dans la mesure où la machine ne libère pas le travailleur du travail, mais ôte au travail son contenu. Toute production capitaliste, dans la mesure où elle n'est pas seulement processus de travail, mais en même temps processus de valorisation du capital, présente ce caractère commun. Ce n'est pas le travailleur qui utilise la condition de travail, mais inversement, la condition de travail qui utilise le travailleur. C'est seulement avec la machinerie que ce renversement acquiert une réalité techniquement tangible. C'est pendant le processus même du travail que le moyen de travail, du fait de sa transformation en automate, se pose face au travailleur comme capital, comme travail mort qui domine et aspire la force vivante du travail.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est 10h32. Karl Marx nous accompagne cette semaine, 150 ans après l'apparition du Capital. Nous vous proposons 4 émissions sur le Capital. On va essayer de vous faire entendre les plus beaux textes qu'on trouve dans cet ouvrage. Celui qu'on vient d'entendre, Isabelle Garraud, en fait sans doute partie. Il est très, très fort et très précis en même temps. Marx avait vraiment le sens des images, ça c'est sûr.
Oui, tout à fait. Et puis là, on voit un Marx passionné de littérature. Référence à Sisyphe, et la culture antique de Marx est considérable, comme beaucoup de gens de son époque, de gens cultivés, mais aussi la littérature anglaise gothique, les mondes des vampires, de ceux qui sucent le sang des travailleurs, l'imagerie de l'enfer aussi, et l'un des grands écrivains que Marx connaît par cœur, c'est Dante. Et l'enfer de Dante est un des textes omniprésents, finalement, derrière le Capital. On en parle aussi un texte littéraire, en plus d'être un texte...
On parlera de Dante dans 2 semaines, à ce même micro d'ailleurs. Donc merci pour l'annonce, Isabelle Garraud. Alors, une phrase de laquelle on peut partir pour comprendre ce texte. Ce n'est pas le travailleur qui utilise la condition de travail, mais inversement, la condition de travail qui utilise le travailleur. Le processus est celui de l'inversion.
Tout à fait. Alors on a la même logique que celle que l'on décrivait tout à l'heure concernant le rapport entre l'argent et la marchandise. L'argent n'est plus intermédiaire, mais finalité du processus. Et ici, le moyen de travail n'est plus un intermédiaire utilisé par l'ouvrier qui, par cet intermédiaire, se forme lui-même, acquiert des capacités. Mais la machine est le moyen d'un transfert de qualification de l'ouvrier qui perd cette qualification vers la machine qui va capturer, réifier, fossiliser ce savoir-faire dans ses rouages et du coup rendre possible l'embauche des femmes et des enfants, comme c'est le cas de ce premier capitalisme anglais avec son extrême brutalité et cette déqualification du travail qui permet aussi d'abaisser ce que, hier comme aujourd'hui, les capitalistes appellent le coût du travail. Aberration, puisque c'est le travail qui produit les richesses. Mais l'idée étant de faire pression sur les salaires pour augmenter justement cette part de plus-value. Donc là, ce texte renvoie très directement à ce fonctionnement central dans le capitalisme.
L'ouvrier n'est plus qualifié, dit Marx, mais il est spécialisé. Dans qualification, il faut entendre le résultat d'une formation, de certaines compétences acquises. Dans spécialisation, au contraire, ça veut dire que la tâche qui nous incombe correspond à une seule activité, c'est à peine une activité, un seul geste à effectuer, très répétitif, dans lequel l'homme est déshumanisé, car il ne s'investit plus en tant que personne. Il doit effectuer des gestes sans qu'aucune concentration finalement ne lui soit vraiment demandée, aucune compétence acquise, donc aucune chose qui relève, qui aurait trait à son humanité. La phrase qui le dit très bien est celle-ci, même l'allègement du travail se transforme en moyen de torture dans la mesure où la machine ne libère pas le travailleur, mais ôte au travail son contenu. C'est-à-dire que le travail tourne à vide, ce n'est même plus du travail au sens premier du terme.
Oui, absolument. Alors ici, Marx, dans cette description, prend le relais d'Adam Smith et de sa description fameuse de la manufacture d'épingles, avec le processus de division du travail qui va commencer avant l'émergence du capitalisme et qui va être une des conditions de cette émergence, avec une division des tâches, une parcellisation des tâches qui simplifie à l'extrême, qui mécanise le travailleur lui-même et qui va amener plus tard, après la mort de Marx d'ailleurs, à toutes les formes d'organisation dites scientifiques du travail, et aujourd'hui d'ailleurs aussi à cette même logique qui consiste alors sur des travaux différents, par exemple sur des plateformes d'appel, à essayer de rationaliser entre guillemets de façon absolument systématique, en diminuant les moments de pause, en obligeant aussi avec un certain nombre de moyens techniques les salariés à être le plus rentable possible. Cette logique-là de division du travail et de déqualification est profondément inhérente à la logique capitaliste. Et elle fait le lien entre finalement ce qui est la nature économique, l'analyse de type économique que Marx donne du capitalisme, mais aussi sa dimension sociale, sa dimension, comme vous l'avez dit, anthropologique, et puis la dimension politique aussi de révolte, de capacité de ces travailleurs à transformer à un moment donné les choses. Parce que cette aliénation pour Marx ne transforme pas pour autant les gens en personnes qui seraient incapables de penser et de réagir. Ça, c'est un point très important, et c'est la différence avec Smith, qui décrit dans un texte extrêmement violent les travailleurs comme devenant quasiment des orang-outans, dit-il. Marx pense absolument le contraire et pense que ces travailleurs soumis à cette grande violence vont développer leur humanité aussi dans des formes de résistance, dans des formes d'organisation politique, dans une volonté de se cultiver, de comprendre ce processus de production, d'y intervenir. Et tout cela est une façon pour ces ouvriers de reconquérir en permanence cette dignité, ces capacités qui leur sont déniées par le capitalisme.
Comme par instinct de survie ?
Plus que par instinct de survie, comme volonté de sortir à un moment donné de ce monde capitaliste, et puis comme capacité des êtres humains qui sont toujours caractérisés par cela, c'est cette volonté à un moment donné de développer ses capacités et de comprendre ce qui se passe et d'agir et d'intervenir sur la ville, même quand elle est la plus, et peut-être surtout quand elle est la plus pénible et la plus écrasante.
Cette dimension est assez difficile à comprendre chez Marx parce qu'il y a d'un côté, on a beaucoup insisté là-dessus, cette prise en compte des rapports sociaux, la réalité d'abord celle des rapports sociaux. On ne peut pas penser l'essence humaine de manière abstraite, comme le faisaient avant lui les philosophes, et les textes qu'il écrit sur Feuerbach, justement, montrent bien que l'absurdité de penser une essence humaine métaphysique, comme ça, un terme qui ne renvoie à aucune réalité, il faut prendre en compte la réalité des rapports sociaux. Et en même temps, Marx n'exclut pas la prise en compte de l'humanité, y compris même individuelle, ce qui fait que l'homme va être conduit à résister, à avoir un sursaut de dignité qui va l'encourager à essayer de changer la situation dans laquelle il est pris.
Tout à fait. Et c'est à la fois, on pourrait dire, presque l'alpha et l'oméga de l'analyse que propose Marx. L'individu est le point de départ et c'est le point d'arrivée, contrairement à toutes les idées reçues qu'on peut avoir. Le but d'un mode de production qui serait enfin humain, d'abord ce serait la satisfaction des besoins humains fondamentaux, et puis ce serait le retour de ce temps libéré pour permettre aux individus de développer comme ils le souhaitent leurs capacités. Et c'est l'idée profonde de Marx, et c'est sa définition du communisme. Donc on est loin et des idées reçues et d'un certain nombre de pratiques qui ont pu se faire en son nom. Mais la question de l'individu est au cœur du capital, même si elle n'est pas toujours thématisée en tant que telle.
Mais ça pose la question du destinataire du capital. Est-ce que Karl Marx écrit ce livre pour les ouvriers, pour ceux qui sont en train de mener des révolutions en Angleterre et dans un cadre communiste, ou pour les intellectuels de son temps ?
Pour les deux, et lui-même est un exemple d'intellectuel rallié d'origine bourgeoise.
Parce que si on n'arrive pas à finir de lire aujourd'hui, il y a peu de chances que les ouvriers de l'époque arrivent à le lire. Il en a bien conscience de ça.
Alors, il en a bien conscience et c'est pour cela qu'il propose cette traduction qui est un peu plus accessible. Il faut voir que le niveau de culture politique de cette époque est extrêmement élevé et que par des livraisons...
Aujourd'hui.
À certains égards, plus qu'aujourd'hui, dans ces mouvements organisés, il y a tout un travail de formation et c'est très impressionnant de voir les textes qui sont sont lues et travaillées collectivement. Et c'est le cas donc de ce premier livre du Capital que Marx met au point, avec des livraisons régulières dans la presse qui vont permettre à ceux qui lisent, et qui sont très nombreux, qui lisent les journaux, de s'informer de cette théorisation. Et puis au même moment, existent des petits abrégés qui essaient de rendre plus accessible aussi le contenu du Capital. Bref, ce travail théorique reste tout à fait accessible et c'est un texte clair, tout à fait clair.
Et il est essentiel pour lui-même dans le processus de libération. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de libération sans toute forme de libération ne peut pas faire l'économie d'une prise de conscience des causes qui nous déterminent. En fait, il est très proche de Spinoza, hein. L'homme n'est pas libre, il est déterminé par des causes, il ne pourra pas se libérer tant qu'il ne saura pas quelles sont les causes qui le déterminent.
Oui, tout à fait. Et c'est la différence d'ailleurs avec les modes de production antérieurs. Si un jour une alternative au capitalisme et un dépassement parvient à exister, ça supposera un effort de connaissance, un effort de conscience collectif, et donc du coup individuel aussi, sans précédent.
Alors on va prendre un exemple précis et contemporain pour rester un instant sur cette notion de plus-value qui est le fil conducteur de notre discussion aujourd'hui, Isabelle Garraud. Vous avez expliqué comment Marx arrive à mettre au jour le mécanisme qui conduit à la plus-value, c'est-à-dire une forme de profit qu'on appelle aussi sur-valeur hein, d'ailleurs, mais comment en investissant de l'argent dans une marchandise, on récupère de l'argent finalement un montant qui est supérieur à celui qu'on a investi, qu'on va réinvestir ensuite. Le problème étant que ce profit soit entre les mains du propriétaire et ne pas du tout redistribué au sein des travailleurs eux-mêmes. Voici un cas particulier. Imaginez un couple qui vit ensemble depuis quelques années avec des enfants, qui décide de se séparer et de vendre la maison qu'ils ont achetée, sachant que la femme a seule investi dans cette maison, mais que l'homme est celui qui a effectué les travaux. Comment est-ce qu'on s'en sort ? Écoutez.
J'ai vu le notaire, il a fait les calculs. T'as par emprunt plus travaux, ça fait un tiers.
Moi, j'ai vu un avocat, il m'a dit que je pouvais te réclamer une pension alimentaire.
Ça fait 15 ans que tu vis à mes crochets, tu vas pas.
Bon, je m'en fous de la pension alimentaire, mais par contre, je veux que ça soit réglé sur les parts.
Écoute, j'ai réfléchi, je vais te donner 20 000 euros en plus.
Non, je veux pas l'aumône, je veux ma part.
Je te propose un peu plus que ta part, en fait.
Montre-moi les comptes, là. J'en ai marre, là. Je veux qu'on rentre dans le concret, là.
Donc, en gros, j'ai mis 200 000 euros de ma poche, ça t'est d'accord ?
Non.
Comment ça, non ?
100 000 toi, 100 000 ta mère.
Oui, mais enfin, c'est pareil, c'est ma mère, non ?
Ouais, mais elle a dit qu'elle donnait à nous deux.
Là, il a écrit ton nom ou pas ?
Je sais, avec vous les bourgeois, tout ce que vous donnez d'une main, vous le reprenez de l'autre.
Bon, ok. Les charges de la copro, le remboursement de l'emprunt, c'est presque toujours moi. Là, on en est à plus de la moitié.
T'oublies pas un truc, là ? Les travaux, ils sont où les travaux ? C'est quand même bizarre que tu oublies systématiquement les travaux, non ? Ma sueur, là, mon travail, comment tu les comptes ? L'appartement a fait plus de 100 000 euros de plus-value grâce aux travaux. Ça vaut largement la moitié, je veux la moitié, je t'ai dit.
Tu fais exprès de pas comprendre, en fait. Ton agent immobilier, parce que c'est toi qui l'a choisi, c'est toi qui l'a fait venir. Elle est venue, elle a fait une évaluation. On peut le vendre 400 000 euros, on l'a acheté 300 000 euros. Il y a 100 000 euros de plus-value dans la plus-value, il y a tes travaux. Écoute, Boris, tu fais le calcul, tu ressors gagnant, là. Quand on s'est rencontrés, t'avais rien.
Ça y est, tu me refais le coup de la charité ? J'avais rien, mais aujourd'hui, grâce à mon travail, je peux revendiquer la moitié de cet appartement. La valeur travail dans la part du capital. Tu sais ce que c'est ? T'as déjà entendu parler de ça ?
En tout cas, lui, on dirait qu'il a lu le Capital. Alors lui, c'est le personnage masculin du film franco-belge L'économie du couple, réalisé par Joachim Lafosse en 2016 avec Bérénice Bejo dans le rôle de Marie, Cédric Kahn dans le rôle de Boris que l'on vient d'entendre. Ce cas particulier a une vertu, Isabelle Garraud, c'est qu'il nous permet de préciser ce qu'on entend par plus-value. Là, en l'occurrence, cette plus-value vient-elle des travaux engendrés par l'homme ou vient-elle de l'évolution du cours de la vie qui fait quand on revend un appartement quelques années après, souvent, il y a une plus-value qui s'effectue.
Alors c'est le problème justement de cette utilisation en français du terme de plus-value, puisqu'il renvoie d'abord pour nous tous à l'idée de plus-value de type immobilier, comme il en est question dans cet extrait. Et cette plus-value provient uniquement de la circulation, de la sphère des prix et de l'échange. Et ça n'est pas ce que Marx veut désigner. Et donc là, en fait, dans l'extrait, il y a ces deux plus-values qui coexistent, mais qui sont de nature différente. D'un côté, cette plus-value immobilière, qui est un phénomène donc purement lié à la circulation, et de l'autre côté la question de la valeur du travail. En allemand, le terme peut être traduit, le terme de Mehrwert qu'utilise Marx peut être traduit par plus-value, mais la traduction proposée par Jean-Pierre Lefebvre de survaleur est plus exacte et justement évite cette confusion. La survaleur, c'est lié à cette quantité de travail non rémunéré, donc le sur-travail, et le sur, le préfixe ici, indique une dynamique, alors que dans plus-value, on a simplement quelque chose comme une addition. Or, Marx essaye à travers cette idée de plus-value de désigner une dynamique qui est celle-là même du capitalisme situé dans la sphère de la production. Du coup, l'extrait là...
Pointe cette ambiguïté
et confond ces deux registres qui sont très différents.
C'est pourtant toute la question de savoir comment faire pour quantifier les forces de travail que l'on met en œuvre, pas simplement dans le cadre d'un lieu de travail avec un contrat de travail signé. Ce que l'extrait donne à penser aussi, c'est comment faire pour essayer de voir ce qui mérite, en fait, salaire ou rétribution, pas forcément sous forme monétaire d'ailleurs. Ouais. La personne qui fait des travaux pendant des années, elle travaille, elle n'est pas rémunérée pour ça. C'est normal que là, du coup, cette personne-là demande à bénéficier de la plus-value au moment de la vente de l'appartement. Mais, par exemple, tout le travail domestique qui est fait par un homme ou par une femme, d'ailleurs. On parle beaucoup en ce moment de la charge mentale endossée uniquement par la femme dans beaucoup de cas. C'est un travail investi. On peut parler de force de travail, mais il n'y a aucun salaire qui est reçu. Dans cette perspective-là, qui est la perspective marxiste, il y a vraiment une logique comptable de l'existence à mettre en œuvre pour fuir cette forme d'exploitation.
Vous avez raison, c'est un débat très actuel qui est relancé aujourd'hui. Ce que l'extrait donne bien à percevoir, c'est aussi cette dynamique de marchandisation des rapports humains. Là, on a quand même un échange assez sordide entre deux personnes qui montre à quel point nous sommes envahis par ces questions de calcul, d'évaluation, bref, de marchandisation accélérée de nos vies. Et l'autre aspect, derrière cette dimension humaine et domestique, en tout cas strictement individuel et domestique, c'est une manière, je crois, d'aborder aussi ce problème qui est présent dans le Capital, c'est ce que Marx appelle le despotisme d'usine, c'est-à-dire la violence de rapports sociaux qui, en vertu donc de ces relations définies par le contrat de travail, autorise un pouvoir sans limite de l'employeur et du capitaliste sur ceux qui l'emploient. D'un côté, on a ce despotisme, et de l'autre côté, dit Marx, on a un chaos qui est lié au fait qu'il n'y a aucune régulation dans le monde capitaliste autre que par le marché, avec les crises successives qui vont en découler. Et Marx est le premier analyste des crises, qui explique d'ailleurs qu'on s'intéresse de nouveau aujourd'hui, y compris chez les libéraux, à Marx, parce que c'est celui qui va le plus s'arrêter sur cette question des crises. Et du coup, cette analyse-là, ce contraste entre despotisme d'usine et anarchie de la production, met en évidence ce qui, pour Marx, va être un thème politique aussi, comment faire pour que la démocratie arrive dans l'entreprise, c'est-à-dire pour que ceux qui travaillent soient maîtres de leur outil de travail, de leurs conditions de travail, de leur horaire, soient aussi ceux qui participent à la décision d'un certain type de production satisfaisant des besoins sociaux essentiels, etc., etc. Et là, s'esquisse, au cœur même des rapports de production les plus aliénants, au cœur même des relations individuelles les plus consuméristes ou les plus liées à la marchandise, la perspective d'une autre façon de construire la société, d'une autre façon de travailler.
Que vous qualifieriez d'utopique ?
Pas nécessairement utopique, parce qu'on a du mal à penser qu'elle puisse à un moment donné s'instaurer véritablement, mais tout à fait réaliste si on imagine à quel point le capitalisme aujourd'hui est en train de dévaster les salariés et la planète et nous conduire à une catastrophe s'il n'y a pas de transformation. Donc là, malheureusement, nous sommes pris en étau entre quelque chose qui certes paraît très improbable et puis une catastrophe annoncée qui, elle, malheureusement, s'esquisse de façon de plus en plus nette.
La question qui arrive forcément au terme de cette discussion, Isabelle Garraud, et surtout après ce que vous venez de dire, est celle de savoir dans quelle mesure est-ce que ce que, à la fois ce que Marx dénonce, ce dont il est presque le diagnosticien, il dresse un tableau extrêmement précis de l'état de fait des travailleurs de son temps, au moment où il écrit, il y a 150 ans, mais c'est assez fidèle à ce qui se passe encore aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que, à la fois, l'état de fait qu'il dessine et ce qu'il propose, les sortes de directions qu'il esquisse, sont applicables aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut accueillir ce texte comme une espèce d'idée directrice, au sens où voilà, la direction à suivre et essayons de faire en sorte que ce soit possible, donc avec une dimension utopique mais nécessaire, ou est-ce qu'il y a une dimension proprement pratique et pragmatique où on pourrait mettre en œuvre directement, livre en main, des formes de solutions ou en tout cas de changements radicaux qui permettraient d'engendrer peut-être cette révolution souhaitée.
Alors pour Marx, livre en main, surtout pas, puisqu'il tient à préciser à un moment donné qu'il ne veut absolument pas faire bouillir, dit-il, les marmites de l'avenir. Autrement dit, il n'y a pas de description du communisme dans Le Capital ni ailleurs. En revanche, il y a un certain nombre de traits décisifs et de transformations qui pour lui sont nécessaires à apporter. Et tout cela, évidemment, est entièrement remis aux mains de ceux qui se battent contre ce système capitaliste et qui auront à inventer ce monde nouveau. Donc Marx considère qu'il ne s'agit pas de tracer sur le papier des grands projets, mais de commencer par se battre pour un droit du travail. Après tout, c'est d'actualité en cette veille de grève du 10 octobre, se battre pour des conquêtes sociales qui petit à petit esquissent aussi à un moment donné des conquêtes plus importantes et un remodelage des rapports sociaux. C'est ainsi lui qu'il entrevoit les choses et c'est ainsi qu'il conçoit un travail politique qu'il ne fait pas à la place des autres, ce qui serait contradictoire avec cette idée de démocratie dans le travail et dans la société.
Donc il n'y a aucun rôle à jouer, de manière représentative, c'est-à-dire que chacun doit agir pour lui-même.
Chacun doit agir collectivement pour essayer de construire un projet de société qui, à un moment donné, soit viable et nous permette d'échapper à ces destructions. Et cela, c'est un travail politique. Pour Marx, la connaissance est tout à fait indispensable. La connaissance du capitalisme est tout à fait indispensable à la construction d'une alternative. Mais elle ne permet pas de faire l'économie, si on peut dire, de ces luttes politiques et sociales.
La connaissance du capitalisme est indispensable au travail à la recherche d'une alternative. Ce sont vos mots, Isabelle Garot. Merci à vous d'être venu nous parler du Capital de Marx aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Early in the morning, factory whistle blows, man rises from bed and puts on his clothes, man takes his lunch, walks out in the morning light. The working, just the working life. Through the mansions of fear, through the mansions of pain, see my daddy walking through them factory gates in the rain. Factory takes his hearing, factory gives.
Ah, Bruce Springsteen, le chanteur de la working class américaine. C'est Nicolas Berger qui vous le propose pour terminer cette émission sur Le Capital de Karl Marx. Donc, nous avons évoqué la plus-value aujourd'hui, la fabrique de la plus-value avec vous, Isabelle Garot. On se retrouve demain pour la suite de cette série. On en parle jusqu'à jeudi. On aura le temps de le parcourir et vous aurez le temps de vous y plonger, chers auditeurs. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour, chère Géraldine.
Bonjour, Adèle. Bonjour à tous.
Ravie de vous retrouver à ce micro.
Également, très contente.
Donc, comme tous les jours, désormais, vous reprenez le fil de vos chroniques. Vous allez nous parler d'actualité philosophique. Aujourd'hui.
Et une très belle actualité
philosophique. La lutte des classes, non ?
Rien à voir ? Non, rien à voir. En cette rentrée, j'ai plutôt remarqué que les essais portés sur le thème de la haine, alors on peut citer le Contre la haine de Caroline Emke ou l'essai d'Hélène Leuillet dont il a été ici question, Tu haïras ton prochain. Mais aujourd'hui, j'ai pris un contre-pied parce que paraît aux éditions des Belles Lettres la merveilleuse correspondance entre Lou Andrea Salomé, Paul Ré et Friedrich Nietzsche. J'ai donc choisi de vous parler d'amour et de poser cette seule question. L'amour serait-il le seul sens, l'essence, l'inactivité actualité de la bien nommée philosophie et quel amour.
On se sauve ensemble.
Les présentations restent à faire.
Si vous y tenez.
Paul Ré, de Leipzig.
Lou Salomé, de Saint-Pétersbourg. Puis-je vous poser une question? Pourquoi jouez-vous en fait?
Parce que je perds.
C'est votre jouissance.
Quelle est la vôtre?
Chaque nouvelle expérience.
Quand Lou Andrea Salomé rencontre Paul Rey, elle a seulement 21 ans, on est en mars 1882. Paul Rey échange déjà pour sa part avec Nietzsche depuis 1875 et très vite se rencontrent son ami philosophe et sa jeune russe qu'il appelle, oui, son petit escargot adoré même. De cette rencontre naîtra un trio mythique, la Trinité, aussi vite unie qu'éparpillée, et de leurs lettres, notes, journaux et brouillons qu'on lit ici, dans cette nouvelle édition des Belles Lettres, il reste pourtant des questions qui se posent encore. Quelle place accorder à l'amour, au sentiment, à l'expérience dans la pensée, quelle relation établir entre l'esprit et le corps et le cœur, jusqu'où la passion peut-elle paradoxalement guider la raison, autrement dit, la philosophie se constitue-t-elle forcément en relation avec l'amour, cet autre qu'elle-même et avec un autre qu'elle-même.
Ma chère amie, si vous ne voulez pas que je sois avec vous, dites-le-moi simplement. Et il n'est pas nécessaire que vous donniez des raisons. J'ai une totale confiance en vous. Mais vous le savez bien. Si nous nous accordons l'un à l'autre, nos santé s'accorderont aussi et nous en tirerons quelque utilité secrète. Je n'ai jamais pensé comme vous que vous devriez lire et écrire pour moi. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir être votre professeur. Enfin, et pour dire toute la vérité, je suis présentement à la recherche de personnes qui puissent être mes héritiers. Je nourris toutes sortes de choses qui n'apparaissent pas du tout dans mes livres. Et cherche le terreau le plus beau et le plus fertile pour les faire fructifier. Voyez mon égoïsme.
Penser avec l'autre, avec l'amour, c'est bien ce que demande Nietzsche à Lou Andrea Salomé. De quoi aller dans le sens d'une pure philosophie, d'un littéral amour, de la sagesse, d'une pensée ouverte, d'une vie philosophique fondée sur la relation à l'autre. Mais alors pourquoi? Pourquoi Lou a-t-elle refusé cette relation? Pourquoi leur trio s'est-il éparpillé si vite, si violemment? Dans une lettre incroyable qu'on peut découvrir ici, la sœur de Nietzsche décrit justement Lou comme une furie. Lou, c'est selon elle le contraire de la sagesse et l'incarnation de la philosophie de son frère, égoïste, violente, immorale. Et cette correspondance révèle plutôt que la philosophie n'a rien de l'amour sage qui unit, ouvre et apaise, mais plutôt tout de l'amour cruel.
J'ai découvert que l'on peut de façon tout à fait surprenante reconnaître les gens de cette espèce à la façon intime et pudique dont ils écoutent des manifestations de douleur ou des récits de souffrance. Cela les excite, certes, mais sans qu'ils en soient avides d'aucune sorte. Cela les met plutôt à la torture, un peu comme s'ils étaient obligés d'épier les attitudes amoureuses d'inconnus, qui leur répugneraient peut-être.
En 1913, dans ce texte, Lou Andrea Salomé fera du voyeurisme une forme de cruauté. Eh bien, lire cette correspondance en est une, c'est déchirant, ça ne parle finalement pas de l'amour qui nourrit la pensée et inversement, ça parle plutôt de l'impossibilité de l'amour, de l'autre, de l'union de la sagesse, mais au contraire, de la possibilité de la philosophie, celle qui refuse l'amour aliénant, tout comme l'empire de la haine.
Merci Géraldine de nous parler d'amour, et donc j'ai appris que Paul Rey appelait Lou son petit escargot.
C'est mignon.
Et Isabelle Garraud, comment est-ce que Jenny appelait Carl?
Elle l'appelait son petit sanglier.
Quel bestiaire, on n'en sort pas. Où est-ce qu'on peut lire cette tri-correspondance?
Oui, alors tri-correspondance avec des notes, aussi des extraits de journaux, c'est incroyable, c'est aux Belles Lettres.
Merci beaucoup Géraldine. Et merci à Claire Perriman-Holt qui a préparé cette émission, ainsi que Marianne Chassor, Marie Aubert qui est avec nous cette semaine, David Pargamin, Nicolas Berger qui réalise cette émission, Jacques Hubert qui était la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur le Capital de Karl Marx. Demain, eh bien, il s'agira rien de moins que de remettre la philosophie sur ses pieds. C'est une expression de Marx contre Hegel, et c'est Bruno Pinchard qui viendra vous en parler. Rendez-vous demain à 10h donc, mais d'ici là, rendez-vous sur notre site internet Les Chemins de la Philosophie, où vous trouverez toutes les indications bibliographiques concernant l'émission du jour, musicale aussi. Vous pourrez également la réécouter en ligne, ou bien la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, et c'est valable évidemment pour votre chronique, Géraldine. Le journal de la philo est également réécoutable et téléchargeable en ligne. Rendez-vous demain à 10h donc, et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. Thank you.